Donc Marion Chaigneau-Dupuis, vous êtes la première femme européenne à avoir gravi 3 fois le Mount Everest. Et ce qui m'intéresse d'abord, quel était le chemin pour monter la première fois au Mount Everest? Est-ce que c'était un vœu, un rêve de votre petite enfance? Est-ce que c'était peut-être un hasard qui vous a mené là-bas? Comment ça se déroulait?
J'ai une relation très forte avec la montagne qui est partie depuis la vie contemplative que j'ai menée dans le monastère de Darjeeling, sur le versant sud de l'Himalaya, avant de traverser la chaîne, l'Himalaya, pour arriver sur la partie nord, sur le plateau tibétain, où j'ai travaillé pendant maintenant bientôt 17 ans que je vis à Lhasa, sur des projets de développement avec des entrepreneurs sociaux tibétains,
oui,
qui cherchent à avoir un impact social ou environnemental au sein donc d'un projet d'entreprise. Et c'est avec l'agence privée d'expédition basée à Lhasa, qui est affiliée à l'école de montagne de haute montagne pour les guides en formation, qu'on a monté ensemble un projet de charte environnementale pour protéger les montagnes de l'Himalaya sur la face tibétaine et notamment sur l'Everest. Mmh. Et c'est comme ça qu'en 2013, on est monté ensemble la première fois avec une expédition 100% tibétaine pour faire un diagnostic des besoins de dépollution sur le versant nord et qu'on a estimé à peu près 10 tonnes de déchets. Et donc on est allé jusqu'au sommet pour faire un état des lieux sur les différents camps. Et c'est comme ça que je suis arrivée une première fois au sommet. Mmh. Et puis après, par ce chemin-là, je suis retournée pour aider à collecter les déchets et à les redescendre.
Mmh. Je me demandais en cours de lecture de votre histoire un peu, comment on estime le poids des déchets qu'on voit en montant? Parce que ça doit être très très difficile.
Oui, en fait, on est parti d'un constat assez désastreux à 6500 mètres, qui est le lieu intermédiaire entre le camp de base, qui est le point de départ pour toutes les expéditions, qui ne vont pas forcément d'ailleurs toutes jusqu'au sommet, mmh, et puis la partie finale d'ascension, qui se fait à partir de 6500 mètres, donc du camp de base avancé, qui est le lieu où les expéditions restent le plus longtemps. Donc, parfois plusieurs semaines, sur une durée en fait totale d'une expédition qui est de 2 mois.
Oui.
Entre voilà, l'arrivée au camp de base jusqu'à l'ascension finale, jusqu'au sommet, et puis redescendre. Donc, il y a plusieurs paliers. Et les paliers donc, qui durent plus ou moins longtemps selon les phases d'acclimatation et qui, donc, pour les alpinistes qui résident sur les différents camps, enfin résident sous les tentes,
oui,
produisent beaucoup de déchets. Et donc à 6500 mètres, on pouvait voir en fait les différents types de déchets qui étaient présents et commencer en fait à les collecter, les trier et à les peser. Et c'est là qu'on a fait en fait une estimation assez précise à partir de ce camp de ce qu'il y avait au-dessus, qui était il y a beaucoup moins, mais avec d'autres types de déchets plus compliqués à descendre, mais qu'on a progressivement aussi estimé et on a trouvé des solutions pour aller redescendre. Voilà, donc tous les déchets, non inclus les cadavres, on a fait une estimation de 10 tonnes à peu près.
Quand j'ai vu les photographies un peu, il y a par exemple tout un tas de boîtes Coca. Ça m'a étonné parce que ça ne va pas en image avec l'autre image de la personne qui doit être assez sportive et athlète pour monter au sommet. Mais vous avez parlé de déchets peut-être plus difficiles à reprendre en bas, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça doit être de tout un peu?
Oui, en fait, les canettes, c'est effectivement le premier déchet qu'on trouve, mmh, un volume. Et c'est en fait surtout les personnels embauchés en fait localement pour encadrer les caravanes de yaks, notamment, mmh, qui monte les charges d'équipement, donc technique pour l'ascension, mais aussi beaucoup de nourriture, et puis des tentes, et énormément de bouteilles d'oxygène. Donc tout ce matériel d'expédition est monté par des yaks et des caravaniers, qui sont assez nombreux finalement. C'est eux qui laissent toutes ces canettes. Et donc c'est un énorme travail de sensibilisation, bien sûr, pour que ça stoppe. Et sinon, les autres déchets qu'on trouve plus en altitude, vraiment laissés par les alpinistes eux-mêmes, c'est plutôt des crampons, des vieux crampons, des toiles de tente, des bouteilles de gaz pour faire la cuisine, en fait, avec des réchauds à gaz qui permettent de faire fondre la neige pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir cuisiner, pouvoir boire pendant les derniers jours d'ascension. Donc tout ce matériel, c'est en fait voilà, quelque chose qui normalement ne devrait absolument pas rester sur la montagne, surtout pour venant d'alpinistes qui sont là pour être en lien avec la montagne et donc s'y relier de manière respectueuse. Et pourtant, voilà, c'est quand même ce qui reste aujourd'hui notre plus gros problème, c'est de redescendre tous ces déchets, même plus haut en altitude, qui sont laissés par les alpinistes.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de demander à certains de ces alpinistes pourquoi ils laissent derrière eux tous ces déchets? Je pense qu'une réponse pourrait être à cause du poids, parce qu'on essaie d'avoir le moins de poids possible lorsqu'on monte au sommet.
Oui, c'est ça, en fait. C'est surtout à la redescente que... Il y a un effort qui est tellement colossal à fournir pour arriver jusqu'en haut qu'au moment de redescendre les différents camps, quand c'est le sac normalement est plus ou moins vide et que c'est le moment de camp après camp, en fait, remplir avec tous les déchets qui sont laissés sur les différents camps pour rien laisser derrière soi, c'est là en fait où il n'y a plus aucune conscience tournée vers le respect du lieu et de ce que la montagne a donné. C'est vraiment plus l'instinct de survie qui prédomine et qui laisse la place à rien d'autre. Donc redescendre le plus vite possible en gardant toute son énergie pour rester en vie et après moi le déluge.
Donc avec le résultat que vous avez estimé de plus de 10 tonnes de déchets, dont vous en avez déjà fait descendre 8,5, si je ne me trompe, pendant 3 ans, à cause d'une initiative que vous avez prise.
Mmh. Et la dernière année, en fait, 2019, qui a permis de redescendre en fait, la dernière tonne et demie de déchets qui nous restait à descendre sur les plus hauts camps, les déchets les plus compliqués à redescendre. Donc là, en fait, il y a un nouveau programme qui s'est mis en place, qui s'appelle maintenant Trash for Cash.
Oui.
Et qui permet de rémunérer les personnels en fait professionnels de la montagne, qui sont les Sherpas népalais et les guides de haute montagne tibétains, qui travaillent chaque année sur les hauts camps jusqu'au sommet, et qui redescendent les déchets collectés avec une rémunération au camp de base avancé à 6500 mètres, qui est la zone un peu de pierre angulaire en fait du projet, qui permet de trier les déchets, de les redescendre avec les yaks après jusqu'au camp de base, puis après de ramener avec des camions jusqu'à Lhasa ces déchets vers des filières de recyclage et ou vers le musée de la montagne, qui est un lieu maintenant aussi de stockage des déchets, qui nous permet de créer des installations d'art contemporain et aussi une ligne de vêtements créée à partir des déchets, pour que tout ce travail en fait en amont de collecte des déchets serve en fait aussi après en plus en aval vers toutes les populations tibétaines, la Chine et même le reste du monde, en fait, de montrer l'importance de dépollution et de garder les sites après propres sur le long terme, pour que ce soit pas juste en fait une opération de nettoyage comme ça en une one shot operation, mais plutôt un projet de long terme avec derrière toute une éducation à la protection de l'environnement et de ce rayonnement aussi après au niveau médiatique qui permet d'éveiller les consciences sur la protection des montagnes en général dans le monde entier.
Là maintenant, vous avez une montée et une descente qui peut se faire bien propre. Il ne reste plus rien de déchets. Mais comme vous le dites, il faut qu'on fasse une éducation.
Oui.
pour qu'on n'arrive plus à avoir à nouveau les déchets. Est-ce que vous voyez qu'il y a les retombées qui sont positives?
Oui. Oui, oui. Alors, à la première retombée positive et même extrêmement positive, c'est le gouvernement local de Lhasa, soutenu par Pékin, qui maintenant en fait finance la fin des opérations de nettoyage et de mise en place des infrastructures pour que justement ce modèle de gestion des déchets puisse être pérennisé. Et ça, ça a lieu depuis 2017, renforcé en 2018. Et alors vraiment cette année, en 2019, c'est marquant en fait combien le camp de base est propre et qu'il y a tout en place pour qu'il reste propre. Et puis, au-dessus, même, on voit bien que sur les différents camps, même à 6500 mètres, les équipes sont beaucoup plus sensibilisées. Ils ont des sacs avec eux qui leur sont distribués. Quand je dis les équipes, c'est les équipes internationales, les expéditions, qui montent avec des sacs pour trier leurs déchets, les redescendre. Et ça c'est nouveau et c'était en fait le point de départ, c'est quand même un grand nettoyage. Ensuite, le deuxième point, c'est mettre en place vraiment des infrastructures, des zones de dépôt pour les déchets et puis de redistribuer des sacs, simplement, pour qu'ils soient mieux traités, ces déchets. Et voilà, après, le dernier, on va dire, segment, qui est le troisième, qui est la sensibilisation, c'est-à-dire, oui, infuser un message qui soit de respect de la montagne dans une relation en fait, de données autant qu'on reçoit de la montagne. Donc tout ce qui est reçu au niveau de voilà, la possibilité de grimper, d'être resté en montagne pendant longtemps sur ces différents versants, eh bien, en échange, c'est d'avoir une attitude respectueuse vers la montagne. Donc ça, c'est en train de s'instaurer maintenant.
Donc après tout cet engagement, et même un peu avant ce moment-ci où on parle, vous avez reçu un prix qui s'appelle Terre de Femmes, donc pour cet engagement. Quelle est la valeur de ce prix pour vous?
Il y a plusieurs dimensions à ce prix. Déjà, rentrer dans une lignée en fait, de femmes actives dans le domaine de l'écologie et de pouvoir transmettre après l'année suivante à d'autres femmes qui poursuivront ce chemin, ça donne une première coloration à ce prix qui est la place de la femme dans l'action écologique, qui, à mon sens, est amenée à se développer et rayonner. Donc, d'y participer, c'est un très grand honneur. Et puis, deuxièmement, sur un plan plus personnel, c'est très nouveau, en fait, pour moi de m'exprimer sur ce que j'ai fait. Ça n'a jamais été un objectif, en fait, de communiquer sur mes actions. C'est venu, on va dire, naturellement parce que pour le projet lui-même, à un moment où justement les actions avaient été menées sur le terrain et il y avait ce message qui en fait commençait à émerger de comment sensibiliser à une plus grande échelle en fait une population à la fois tibétaine mais aussi chinoise et internationale. Problème de l'environnement et notamment de la pollution des montagnes. Donc j'ai pris ce rôle de communicante. Pas pour moi-même me sentir importante, mais c'est plus une parole qui, de toute façon, doit être transmise, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, ça a pas tant d'importance. Et je suis sortie de ma, on va dire, coquille, un peu de refermement sur mon contexte assez complexe, assez fermé au Tibet, pour sortir voilà, sous les projecteurs des médias. Et ça s'est fait de manière assez douce, c'est-à-dire que je ne me suis pas sentie en difficulté vis-à-vis de ma situation au Tibet. En fait, ça rentrait dans le cadre d'un projet, donc ça avait tout son sens.
Yeah.
Donc Marianne Chéniaud-Dupuis, depuis un certain temps, vous êtes guide de haute montagne, donc c'est ça votre quotidien, je suppose bien. Expliquez un peu comment se passe votre quotidien, parce qu'être guide de haute montagne, je pense que c'est une expérience tout à fait renouvelée à chaque fois.
Oui, en fait, j'ai commencé très jeune. C'était le seul métier qui s'offrait à moi dans cet environnement de montagne d'Himalaya. Et je sortais des monastères bouddhistes tibétains où j'avais reçu mon éducation pendant presque 4 ans à Darjeeling, où j'étais au pied des montagnes à les contempler. Puis tout d'un coup, je me suis mis à marcher au pied des montagnes, tourner autour pour accompagner des groupes de pèlerinage qui, au Tibet, circulent autour des montagnes. Et puis finalement, de monter un petit peu sur différents versants pour passer des cols. Donc je suis devenue guide plutôt moyenne montagne. Bon, sachant que moyenne montagne au Tibet, c'est tout de suite 5000 mètres. Et puis finalement, je me suis mis à passer des cols glaciaires, qui étaient donc pour passer sur des chaînes de montagnes qui culminaient autour des 6000, avec des cols à 5007. Donc déjà, c'était une logistique d'encadrement d'expédition quasiment, parce que il fallait donc être équipé avec des crampons, des cordes. On m'en faisait passer des caravanes de yaks aussi sur ces glaciers. Donc j'étais beaucoup plus préoccupée par la sécurité des yaks que les alpinistes à cette époque-là. Parce que j'estimais que les yaks, ils n'avaient pas forcément les savoir-faire ou l'envie de passer comme ça sur des ponts de neige. Pas trop s'affoler, pas tomber dans une crevasse. Donc c'est cette relation avec la nature qui a toujours été prédominante en fait dans mon chemin de tant que guide. Et puis après, donc la très haute montagne, c'est arrivé petit à petit quand on m'a demandé en fait d'accompagner des voyages trek et sommets. Donc là, je me suis mis à faire des reconnaissances de voyages qui combinaient ces deux types de terrains. Donc sommet, c'est sur les glaciers. Et donc à me former petit à petit pour être capable d'encadrer ces types de voyages. Et là, en fait, c'est les guides de Lhasa qui m'ont beaucoup aidée à partir de 2012. Donc j'avais déjà 32 ans. Je faisais ce métier de guide de trekking depuis 10 ans à peu près. Et là, ils m'ont amenée dans des cascades de glace. Ces guides de montagne tibétains, ils m'ont amenée sur des sommets à 7500 mètres où on portait des charges assez lourdes pour tester notre endurance et avoir notre capacité à chacun porter plus ou moins vite à haute altitude. Et puis, ayant fini cette formation, qui était en fait un échange où eux me formaient à la haute montagne et moi je les formais à l'entrepreneuriat social pour que leur entreprise devienne de plus en plus tournée vers les questions environnementales et qu'elle soit même pionnière dans le domaine du tourisme responsable et des expéditions écologiquement propres. Et ça a donné un nouveau souffle en fait aussi à leur industrie au Tibet de haute montagne. Et comme ça, en fait, petit à petit, on a fait des expéditions ensemble jusque sur l'Everest, où j'étais aussi une formatrice pour les expéditions chinoises qui montaient sur l'Everest. Donc au quotidien, je donnais des cours en fait de méditation aux Chinois qui pour les aider à adopter des attitudes mentales qui facilitent en fait la détente et le travail sur soi.
Souvent, c'est juste le contraire, que les Chinois apprennent la méditation aux Européens, pas vice-versa.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les rôles se sont un peu inversés parce que finalement, la clientèle sur l'Everest, ce sont des entrepreneurs plutôt qui... parfois on tournait le dos un peu à leur culture plus ancienne et qui aujourd'hui se tournent vers ces savoirs qu'ils ont perdus par des voies un peu dérivées qui reviennent donc par des Occidentaux comme moi qui ont vu les bienfaits de ces méthodes sur leur esprit et qui ont testé aussi ces méthodes dans un mode de vie plus moderne pour s'adapter au stress, pour gérer des situations avec des prises de risques et qui reviennent en fait avec ces savoirs plus contemplatifs de la Chine ancienne dans une démarche d'adopter, enfin de combiner ces attitudes mentales dans des contextes modernes. Ce qui finalement pour eux, en Chine, a un très grand intérêt vu que c'est la réalité qu'ils partagent aujourd'hui en fait, d'être confrontés au stress dans le milieu de l'entreprise et dans une atteinte d'objectifs quand même assez élevés comme atteindre le sommet de l'Everest, c'est tous ces mécanismes en fait qui sont réactivés. Donc de chercher dans la performance, à être se comparer aux autres, beaucoup de compétition en fait au final, beaucoup de stress. Donc toutes ces attitudes mentales qui finalement empêchent le corps de justement s'autoréguler dans des conditions qui sont un peu extrêmes et qui finalement avec le temps permet naturellement de retrouver un rythme qui à chacun en fait devient son propre référentiel de qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce contexte-là. Et ça prend du temps, et non seulement du temps, mais aussi des méthodes pour retrouver son propre fonctionnement intérieur, pour arriver de la manière la plus fluide et plus détendue et en économie d'énergie jusqu'au sommet. Donc c'est vrai que je ne suis pas une guide de montagne au sens courant, c'est-à-dire tout dans la force et la puissance physique, mais plutôt un guide de montagne qui s'appuie sur la force du mental.
Mais je pense que c'est une partie très importante, la force mentale, si on veut arriver au sommet du monde, c'est comme ça qu'on dit, parce que sans cette force mentale, je pense qu'au moins 90% des personnes qui ont ce but ne vont pas parvenir.
Oui, absolument. C'est vraiment ce qu'on appelle en tibétain la sem shuk. Sem, c'est l'esprit. Shuk, c'est la force. Et c'est en fait comme un muscle du corps qu'on peut travailler jusqu'à ce qu'il devienne bien, bien renforcé et musclé. Et la force mentale, c'est la même chose. C'est une capacité d'attention en un seul point. Donc, garder un focus tout en gardant la détente. Donc, c'est ce que la méditation aussi apprend à faire, une attitude de l'esprit, un positionnement de l'esprit qui n'est ni trop tendu ni trop détendu et qui permet justement de garder un équilibre dans toutes les situations, qui est cette fameuse force mentale en fait qui donne un ancrage pour faire face à toutes les difficultés qui sont rencontrées, évidemment, jusqu'au sommet.
Quand vous étiez, parce que vous avez vécu ça trois fois, quand vous étiez au sommet du Mount Everest, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Quelles étaient vos pensées? Est-ce que vous avez pensé? Peut-être que vous avez juste contemplé, je ne sais pas, mais quelle était l'expérience?
Alors, j'ai contemplé mes pensées, parce qu'il y en avait quand même. Donc, la première fois, à chaque fois, les expériences étaient très différentes. Donc, première fois, j'étais une forme d'euphorie. C'était un peu irréaliste, en fait, de m'être dit, j'y suis. Et ça a duré assez longtemps. Cette première fois, je suis restée peut-être 40 minutes. Il y avait sur la face nord tibétaine où je grimpais, il n'y avait pas d'autre expédition cette année-là, ce jour-là. Donc, il était 9h du matin. Il faisait déjà un grand soleil, pas du tout de vent, donc des conditions idéales pour être tranquille au sommet. J'étais avec deux amis Sherpas et j'étais dans des pensées très très joyeuses et très lumineuses. La deuxième fois, c'était l'opposé. C'était en 2017, j'étais arrivée de nuit parce que j'avais doublé à peu près tout le monde. Donc, je suis arrivée à la première au sommet, mais donc le soleil ne s'était pas levé, il faisait très froid, il y avait de la neige. Et j'étais en désillusion intérieure. C'est-à-dire, mes pensées étaient assez assez triste en fait de ne pas comprendre pourquoi j'étais là et pourquoi j'avais doublé tout le monde et pourquoi j'étais seule. Et pour être au sommet du monde, certes, mais dans cette attitude mentale qui n'était pas celle que je souhaite à personne, il y a pour moi. Et je ne comprenais pas le sens de ça. Donc une désillusion. Et puis la troisième fois, riche de l'expérience précédente où je m'étais rendu compte que adopter une attitude mentale, même au sommet de l'Everest, c'est quelque chose sur lequel je peux avoir éventuellement un choix. J'ai décidé de développer en fait une forme d'ouverture tout au long de l'ascension jusqu'au sommet pour me connecter aux autres, pour être sûre que la manière dont j'arrivais au sommet, c'était pas pour moi être contente de ma performance, mais vraiment plus en connexion avec tous ceux qui avaient eux-mêmes un parcours de vie qui les avait amenés jusqu'ici, qui rencontraient des difficultés pendant l'ascension, qui s'arrêtaient, et donc de m'arrêter avec eux, de leur donner du soutien en simplement ne serait-ce que pas les doubler en soi, c'était déjà un accomplissement pour moi. Mais plutôt de prendre le temps de marcher devant eux, mais peut-être à poser un rythme plus pour les aider à se sentir accompagnés. Donc je suis finalement arrivée dans cet état d'esprit avec un groupe d'indiennes, de femmes qui avaient beaucoup de difficultés et qui peut-être se sont senties soutenues par cette petite présence toute discrète mais féminine aussi qui cherche pas à la compétition. Et on arrivait ensemble, on était toutes proches les unes des autres et on s'est serrées, on s'est souris, on est redescendu par palier ensemble.
Quel était le temps pour la troisième montée ?
La troisième fois, on était pile au moment du lever du soleil et il y avait un peu de vent, donc il faisait quand même froid. Le sommet était très encombré par des alpinistes qui arrivaient des deux côtés. C'était aussi un peu le début des années où il y avait trop, en fait, trop d'alpinistes, surtout du côté népalais, hein, sur le versant sud, qui jusqu'à 700-800 personnes, en fait, qui essaient de monter au sommet chaque année. Alors, c'est pas le même jour, mais même en s'échelonnant sur une dizaine de jours, parce que la fenêtre, en fait, pour aller au sommet, elle a lieu du 15 au 25 mai, à peu près. Après, il y a la possibilité d'étendre un tout petit peu jusqu'à fin mai, mais généralement, c'est des conditions météo qui sont beaucoup moins fiables. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de problèmes, en fait, dû à un afflux trop grand, en fait, d'alpinistes qui viennent pour gravir l'Everest.
Et encore aujourd'hui, il y en a trop.
Oui, surtout cette année, en 2019, ça a été un vrai problème qui a été assez médiatisé, d'ailleurs, sur la face sud, où on voyait des files indiennes, en fait, d'alpinistes qui essaient d'atteindre le sommet. Donc, c'était autour du 23 mai. Moi, j'étais pas jusqu'au sommet, mais j'étais juste en dessous, en camp de base avancée. Et justement, j'ai aidé à régler les problèmes de secours, de coordination, en fait, d'équipe de secours en montagne pour ces personnes, justement, qui, le jour du sommet, étaient en trop grande difficulté. Alors, les difficultés du côté nord, c'est pas autant les embouteillages qu'on trouve sur le face sud qui posent problème parce qu'il y a plus assez d'oxygène, en fait, pour ceux qui restent trop longtemps sur des lieux où il y a des goulots d'étranglement, où plus personne ne peut pas passer. Donc, nous, c'est plutôt des problèmes sur la face nord de très grand épuisement, de mauvaise gestion d'énergie, oui, sur la montée et qui après, à la descente, n'arrive plus, en fait, à avoir suffisamment d'énergie pour redescendre. Donc, il faut des gens pour les redescendre. Donc, j'étais là et j'ai aidé à coordonner les secours Et puis aussi, j'ai aidé à vérifier que les expéditions redescendaient bien tous leurs déchets au camp de base avancé. Voilà, je veillais.
Donc Marianne Chéniaud-Dupuis, vous êtes venue au Luxembourg, entre autres pour une conférence dans le cadre de tout un cycle qui s'appelle Urgence climatique, planète Nanouk. Et cette conférence est intitulée Le troisième pôle. Donc le troisième pôle, c'est une façon de parler du Mount Everest, si j'ai bien compris. Quel sera le contenu de cette conférence? Quel est le fil rouge? Et est-ce que vous allez peut-être documenter ce que vous allez dire par des photographies ou peut-être par des vidéos?
Alors l'Everest fait partie de la zone qu'on appelle le Hindu Kush Himalaya. C'est donc le sommet culminant de la chaîne. Et la chaîne de montagne, donc, elle est bien sûr composée de nombreux glaciers qui forment donc une masse d'eau qui, sous sa forme donc gelée, ce qu'on appelle une partie de la cryosphère. Mais c'est aussi, en fait, cette cryosphère, c'est aussi la terre gelée du plateau tibétain, qu'on appelle aussi le permafrost ou le pergélisol, qui est situé à partir de 4000-4500 mètres, et qui, sur cet immense plateau, constitue à peu près 1 million de kilomètres carrés, donc de masse d'eau gelée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le troisième pôle. Parce qu'après, en fait, le pôle sud et le pôle nord, c'est la plus grande quantité de glace sur la Terre. Et c'est donc un écosystème qui est extrêmement fragile et qui aujourd'hui, bien sûr, a subi les effets du réchauffement climatique avec même une vulnérabilité qui est démultipliée du fait de sa haute altitude. Donc avec des hausses de température qui sont en moyenne deux fois plus importantes que sur le reste de la Terre. Et c'est de ça dont je vais parler ce soir. Je vais parler donc de l'écosystème du troisième pôle sur cette immense région dominée par l'Everest. Je vais parler des actions qui sont menées. Ça va être le fil conducteur de la conférence. C'est comment des actions locales, dont par exemple la dépollution de l'Everest, permet en fait d'avoir un impact global sur toutes les populations en aval dans les bassins fluviaux qui dépendent de l'eau qui vient de ces glaciers et de ces terres gelées, du pergélisol. Et donc on parle de 2 milliards d'habitants. Et on parle aussi donc de, bien sûr, la terre dans son ensemble, voilà, un écosystème global.
Vous allez, je dis maintenant, rester au Luxembourg pour un certain temps et vous allez rencontrer de jeunes gens au lycée de Carsans. Pourquoi leur dire?
Alors, j'ai beaucoup de messages à leur faire passer. Déjà, la rencontre en soi, dans les rencontres interactives, pour montrer à quel point je suis intéressée et tournée en fait vers leur propre développement en tant qu'individu. Et qu'ils peuvent avoir sur leur chemin des sources d'inspiration multiples et très diverses, comme là une femme qui vient de l'Himalaya et qui parce que sur mon chemin j'ai eu des personnes qui m'ont inspirée et j'ai envie aussi donc pouvoir être ça pour eux aujourd'hui, enfin dans les jours qui viennent. Et donc leur faire passer les messages inspirants, ça veut dire bien sûr être dans l'action, dans une conscience écologique, parce que à chacun à son niveau local, là où on est, on peut avoir en fait vraiment l'action qui fait la différence. Qu'aujourd'hui en fait c'est une intelligence collective qui va permettre un basculement vers des modes de vie et donc une responsabilité partagée en fait pour améliorer l'état de la planète. Et c'est dans cette ligne d'inspiration et que j'ai envie de partager.
Vous êtes fondatrice, si j'ai bien compris, aussi de Highland Initiative. Est-ce qu'il y a une place quelque part, par exemple online, où on peut s'informer par rapport, Parce que vous aviez dit auparavant, ce n'était pas votre but d'être médiatisé ou bien de médiatiser ce que vous faites. Est-ce qu'il y a moyen de s'intéresser plus pour votre travail?
Oui, on a une branche en Asie qui est basée à Hong Kong, qui est Island Initiative, donc un centre d'action, de levée de fonds, qui permet effectivement de mener les différentes actions de dépollution, mais aussi de construction d'un institut de savoir nomade sur le plateau tibétain pour aller vers les sources de l'eau, pas seulement sur les glaciers, mais aussi sur les plaines, et réhabiliter finalement les nomades qui vivent sur ces plaines comme gardiens de l'environnement et des sources. Et donc ça, c'est un travail sur la durée et qui nécessite pas mal d'argent. Donc il y a un partenariat avec une fondation chinoise à Pékin qui s'occupe donc d'affilier les fonds vers le site du projet. Et il y a deux centres de collecte de fonds, un basé en France, qui existe depuis 2006, Island Initiative France, et puis donc un site internet qui est islandinitiative.org. Maintenant, le nouveau site, c'est islandinitiative.com.
Merci, Marianne Chéniaud-Dupuis. Marianne Chéniaud-Dupuis, die echt europäisch Frau, die dreimal um Sommer vom Mount Everest stung, und du profitiert von der Gelegenheit, für sich Gedanken darüber zu machen, wie in die Bierschnees kennt, proper kriegen, das auch realisiert wird, und will es wird für die Aktion de Nettoyage, für mal so zu nennen, dann auch auf den ganzen Himalaya auszuweiden. Sie ist am Gangen, du mal dann hört schon hier Initiative Trash for Cash. Lanciert an dem Sinn. Wenn sich interessiert für die weiteren Konferenzen, Dokumentären und Ausstellungen, die organisiert gehen vom Institut Français zu Lützburg im Kader von diesem Zyklus Urgence Klimatik Planète Nanook, der kann nur lesen den Detail auf institut-français-luxembourg.lu. Da finden die ganzen Details. Die Ausstellungen, die sind noch bis den 24. November ab am öffentlichen Raum. An die nächste Konferenz ist die von Michel Ravicki. Kann la Natur me chuchote Alain Tim, den Datum von den 20. November des Jahr. Und damit sind es 11 Minuten bis 11.